Elisabeth Montfort, vous avez toujours été une femme politique ?
Femme politique, non, pas toujours, en ce sens que j'ai commencé à m'intéresser à la politique à l'âge de 12 ans. Et à cet âge-là, je n'étais pas encore une femme. C'est-à-dire que je n'étais pas encore dans la maturité de l'être féminin.
Et alors, comment vous êtes venue à la politique à 12 ans ?
Depuis l'âge de 12 ans, je fais des revues de presse, sans doute parce que ma grand-mère était maire adjointe dans sa petite commune, alors qu'elle avait 10 enfants. Mon père était conseiller municipal de Nantes.
De Nantes, comment ça s'est passé, votre chemin dans la politique?
Il a fallu que j'attende 1995 pour être élue. Entre-temps, j'ai fait des études, je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Et en 1995, je trouvais que notre société n'allait pas bien. Je trouvais que les femmes n'allaient pas bien, qu'il y avait des contradictions dans leur souhait d'être plus autonomes et en même temps leur rôle à jouer dans la société. Et je me suis dit qu'au lieu de toujours ou donner un avis positif ou négatif, il valait mieux s'y jeter soi-même. Donc c'est comme ça que j'ai été élue au conseil municipal de ma ville, puis ensuite au conseil régional avec le président Giscard d'Estaing. Donc je peux dire que j'ai appris ma fonction d'élu avec le président Giscard d'Estaing. Et il m'a fait confiance puisqu'il m'a demandé d'être vice-présidente. Et puis l'année suivante, en 1999, j'ai été élue au Parlement européen jusqu'en 2004 où mon mandat s'est arrêté.
Alors pendant ces années-là, quels étaient les points essentiels sur lesquels vous avez travaillé ?
Alors j'étais à la commission Industrie et Recherche. Tout simplement parce que je voulais être membre d'une commission technique, parce que je ne voulais pas être bousculée ou ennuyée par des questions difficiles, délicates, que je savais être abordées au Parlement européen. Bien m'en a pris, parce que dans le domaine recherche, nous avons eu des rapports parlementaires sur la biotechnologie et la science du vivant. Et donc, il fallait bien que je m'engage sur la question de la recherche embryonnaire, par exemple. Et puis, très vite, dans des dossiers techniques, certains députés européens proposaient des amendements sur la femme. Par exemple, sur le gender mainstreaming. Il fallait absolument inclure, dans un rapport sur l'entreprise, la prise en compte de la dimension de genre.
J'ai Alors, pas compris tout de suite. Oui, expliquez-nous qu'est-ce que c'est que cette dimension du genre.
C'est la classification de la société, non plus en femmes et hommes, mais en gender, en genre, que chacun se choisit et qui peut être soit homme, soit femme, soit homosexuel, soit bisexuel, soit transsexuel. La théorie du genre, du gender, consiste à ce que chacun choisit son propre genre. Le sexe biologique n'est pas nié, mais il n'a aucune importance pour les relations entre les êtres humains dans une société.
Comment vous avez fait pour défendre votre point de vue ?
Eh bien, à chaque fois, au lieu d'inscrire perspective du genre, dimension du genre, je remettais homme-femme, de façon à ce que on prenne bien cette distinction entre l'homme et la femme dans la société, mais non pas pour les opposer, mais au contraire pour leur permettre de mieux coopérer dans tous les domaines de la vie, et y compris dans l'entreprise et dans la vie politique.
Vous avez rencontré beaucoup de résistance ?
Beaucoup de résistance dans un lobby très bien organisé, et finalement assez efficace et qui avait le monopole des crédits, donc le monopole des idées. C'est le lobby européen des femmes. Parce que la plupart des hommes n'ont pas vu venir cette idéologie. Jusqu'au jour où un certain nombre de personnes, de députés européens s'en sont aperçus et ont essayé de s'organiser et de lancer ou de pousser des ONG, des associations, à être une alternative au lobby européen des femmes. Et c'est la raison pour laquelle, après mon mandat européen, j'ai lancé une association, l'Alliance pour un nouveau féminisme européen.
Alors pourquoi nouveau ?
Nouveau féminisme au sens évangélique, tout à fait dans l'esprit de Jean-Paul II. Jean-Paul II en a parlé dans sa lettre aux femmes, dans l'encyclique pour la vie, par exemple. Il en a parlé au sens évangélique, c'est-à-dire cette création nouvelle de la nouvelle alliance. Voici que je fais toute chose nouvelle dans l'Apocalypse. C'est bien le point de vue de la femme qui est pris en compte, mais au regard de ce qu'est la femme par excellence, c'est-à-dire Marie.
Alors, quelles sont les réponses que justement l'encyclique Mulieris Dignitatem et votre recherche, votre perspective apporte ?
Déjà, dans l'idéologie féministe radicale, le maître mot qui justifie ces prises de position, c'est le mot égalité. Et c'est le mot anti-discrimination. Il faut absolument rejeter tout ce qui peut être discrimination de la femme par l'homme et tout ce qui peut empêcher l'égalité de l'homme et de la femme. Mais c'est une fausse conception de l'égalité. Quand on regarde l'homme et la femme dans une anthropologie naturelle, l'homme et la femme sont égaux parce qu'ils ont la même nature, la nature humaine. Et donc, ce concept d'égalité, qui est un concept d'égalitarisme, fausse totalement les relations entre l'homme et la femme.
Est-ce que, au cours de votre expérience de politique jusqu'en 2004 et puis aussi maintenant, vous avez été victime de cette idéologie?
Alors, bien sûr, j'en ai été victime quand j'en parlais au Parlement européen, parce qu'on me disait que j'avais une vision ringarde de la femme. Mais personnellement, ça m'a permis moi-même de redécouvrir ma vocation de femme et de découvrir que l'égalité est un mot à utiliser avec beaucoup de précaution. Le fait que la femme puisse aujourd'hui accéder à des responsabilités dans l'entreprise, dans la vie politique, est une bonne chose, à condition qu'elle n'abandonne pas sa féminité. Et on peut dire que le cœur de la féminité, le cœur de la vocation de la femme, c'est la maternité. Quand on dit que la femme est mère, hein, qu'elle le soit biologiquement ou d'une autre façon, ça veut dire qu'elle accueille, elle porte, elle donne la vie. Et cela change tout par rapport à l'homme. Mais il faut aussi qu'ayant ce lien privilégié avec la vie, parce qu'elle seule peut être mère, le père ne peut pas être mère, elle a quelque chose à donner et à dire et à expliquer à l'homme pour que l'homme devienne père.
Est-ce que vous avez rencontré des hommes qui vous ont posé comme question et la paternité et la vocation de l'homme?
Oui, parce que le féminisme radical des années 60 et 70 a finalement exclu l'homme aux frontières du couple et de la famille. Parce que la femme a voulu acquérir une autonomie qu'elle pensait pouvoir être absolue. Et donc elle a voulu maîtriser sa fécondité, maîtriser sa maternité et ne plus avoir besoin de l'homme, puisque la maternité l'empêchait d'être autonome vis-à-vis de l'homme. Et donc l'homme n'a plus la possibilité, dans ce féminisme radical, d'exercer sa paternité. Et on entend des pères aujourd'hui, on entend des hommes politiques qui sont aussi des pères, crier au secours.
Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées et que vous rencontrez encore dans votre carrière politique à ce niveau-là?
Alors, les difficultés, c'est l'efficacité du lobby féministe radical. Donc, il faut déjà comprendre l'idéologie, décrypter et proposer, non pas une autre idéologie, ce qui serait la grande erreur, mais proposer un regard de vérité qui se nourrit de l'anthropologie, d'une anthropologie naturelle et de l'anthropologie chrétienne, qui se nourrit d'une philosophie réaliste sur l'homme et qui se nourrit de l'expérience quotidienne.
Dans les personnes que vous rencontrez au cours de votre charge, de votre service politique, puisque vous êtes actuellement conseiller régional en Auvergne,
oui.
Vous rencontrez donc des dizaines de personnes. Comment vous leur faites passer ce message?
Alors, on discute beaucoup entre nous, avec mes collègues, hommes et femmes, de cette distinction des sexes, ce qui ne veut pas dire l'opposition. Ce n'est pas parce qu'on distingue qu'on oppose. Et par exemple, j'ai proposé, et je continue à le faire, de prendre en compte l'expérience d'une mère de famille qui s'est occupée de ses enfants pour qu'on lui reconnaisse la compétence pour ensuite qu'elle puisse, éventuellement si elle le souhaite, travailler dans un centre de service à la personne. Voilà la prise en compte, ce qu'on appelle la valorisation des acquis de l'expérience. En France, ça existe, dans d'autres pays européens, ça existe, de façon à ce qu'elle puisse poursuivre son expérience dans la famille, mais pour d'autres personnes extérieures à la famille.
Est-ce qu'on pourrait dire finalement que votre engagement dans la politique en tant que femme, c'est une façon de continuer à transmettre la vie?
Complètement. Et d'ailleurs, quand j'ai été élue au conseil municipal de Rion, de ma ville, j'ai bien vu qu'il y avait un prolongement entre tout ce que je faisais dans la famille. Et finalement, quand on est élue, surtout dans une ville, dans une petite commune, on prolonge tout ce qu'on a fait dans la famille à une échelle plus large. Il faut accueillir les familles en difficulté. Il faut suivre ce qui se passe dans les écoles primaires. Il faut savoir établir un budget. Il faut suivre les loisirs des enfants, des jeunes. Donc, vous voyez, c'est le prolongement de ce qu'on a pu faire dans une famille. Quand on a donné la vie, porté, accueilli la vie, eh bien, évidemment, on le fait de la même façon, mais pour d'autres personnes que pour sa propre famille. Et on peut dire qu'un élu a l'occasion, tout au long de ses journées, d'accueillir la vie blessée, défigurée, abîmée. Et donc la femme élue a l'occasion de porter cette vie abîmée, blessée, défigurée, pour la présenter vers celui qui seul peut la transfigurer, c'est-à-dire le Christ victorieux.